France Musique. Musique et moi.
Paolo Bartolomeo.
Priscille Lafitte, France Musique.
Musica, Laetitiae Comes, Medicina Dolorum. La musique est une compagne dans la joie et un médicament dans la douleur.
Queste rive
Je suis la musique et par mes 12 accents, je sais apaiser les cœurs tourmentés et enflammer d'amour ou de nobles courroux même les esprits les plus froids. C'est le prologue de l'Orfeo de Monteverdi, le chant de la musique. Ici, Monica Piccinini, accompagnée du concerto italiano de Rinaldo Alessandrini. Bonjour Paolo Bartolomeo, merci d'être l'invité de ce Musique et moi.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité dans ma radio préférée.
Bienvenue à vous. Vous êtes neurologue, Paolo Bartolomeo, directeur de recherche à l'INSERM. Vous travaillez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, à l'Institut du cerveau. C'est un endroit historique, je crois, pour la neurologie.
Oui, c'est où la neurologie est née. En fait, la première chaire de neurologie a été créée pour Charcot, exactement... À la Pitié-Salpêtrière.
Et vous avez longuement travaillé sur les capacités de notre cerveau droit. C'est l'objet d'un livre que vous publiez aux éditions Flammarion, Pensée droit, attention, empathie, émotion, les vrais talents de votre cerveau droit. Et c'est à une mise en abîme que je vous invite aujourd'hui, Paolo Bartolomeo, puisque nous allons écouter de la musique ensemble. Parler des émotions et des souvenirs que cela suscite et ce que cela convoque dans notre cerveau et particulièrement dans notre hémisphère droit. La musique est une campagne dans la joie et un médicament dans la douleur, avez-vous dit au tout début de cette émission. Quel type de médicament est la musique pour vous? Un antibiotique, un antidouleur, un anesthésique ou une drogue?
Un antidépressif sûrement, une drogue peut-être. Mais il y a aussi des données, je ne travaille pas directement sur ça, mais il y a aussi des données scientifiques qui montrent que la musique peut aider énormément à la récupération, par exemple, d'une lésion cérébrale, d'un accident vasculaire cérébral.
Et, l'écoute de la musique ou la pratique de la musique?
Probablement les deux, mais l'étude auxquelles je pense... C'était sur l'écoute de la musique. On a pris des patients qui avaient souffert d'un AVC, donc d'un accident vasculaire cérébral. Certains de ces patients ont écouté leur musique préférée. D'autres patients ont écouté des livres, des audiolivres qui leur étaient lus. Et on a constaté que les patients qui avaient écouté leur musique préférée progressaient beaucoup mieux dans la récupération. Or, on ne sait pas si c'est vraiment un effet spécifique de la musique sur les capacités cognitives ou si c'est plutôt un effet qui vient des émotions positives que la musique évoque, hein, dont parle la musique elle-même dans le prologue de l'Orfeo de Monteverdi. Ça, on ne sait pas. Mais ce qui semble être sûr est qu'effectivement, la musique peut aider à la récupération des déficits neurologiques.
Alors la musique est une compagne dans la joie, on va voir depuis combien de temps la musique est une compagne pour vous, Paolo Bartolomeo. Donc on a choisi pour commencer d'entendre ce prologue de l'Orfeo de Monteverdi que vous citez en exergue d'un des chapitres de votre livre consacré à la musique. La musique, vous me baignez dedans depuis l'enfance car je crois comme beaucoup que vous avez regardé le film Fantasia de Disney et entendu ceci.
Thank you.
Paolo Bartolomeo. Vous vous souvenez des sentiments de joie et de reconnaissance après l'orage de cette 6e symphonie de Beethoven? Vous êtes où quand vous écoutez, vous regardez ce Fantasia de Disney?
Oui, j'étais dans tout petit, 7-8 ans, dans un petit cinéma de ma ville natale, qui est une petite ville de Zaprusse en Italie.
Qui s'appelle comment?
Avezzano. Et voilà, j'étais transfixé par cette musique. En famille, on n'écoutait pas beaucoup de musique, mais du coup, je suis tout de suite allé avec mon père acheter un enregistrement de cette 6e symphonie de Beethoven.
Qu'est-ce qui vous avait frappé? Les dieux qui se drapent dans les nuages? L'arc-en-ciel qui se transforme en toboggan?
Oui.
Le coucher de soleil?
Tout ça, bien sûr, c'est très impressionnant pour un enfant. Mais je pense que la musique, encore plus, hein, par rapport aux images, ça m'avait vraiment, vraiment frappé. Je me suis rendu compte seulement après, des dizaines d'années après, en revoyant Fantasia, que Stokowski, le chef d'orchestre, avait fait des coupures horribles dans la partition de Beethoven, qui sont absolument inacceptables, bien sûr, mais à l'époque, j'en avais pas la conscience.
Le neurologue Paolo Bartolomeo est l'invité de Musique et moi ce matin. Paolo Bartolomeo, c'est une musique de l'enfance pour vous, cette sixième symphonie de Beethoven. C'est une version de la pastorale par Franz Brüggen à la tête de l'orchestre du XVIIIe siècle. Vous expliquez dans votre livre Pensée droit que les bébés savent reconnaître la consonance d'une musique très tôt. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience?
Oui, il y a bien sûr un gros débat entre ceux qui disent que tout est appris ou tout vient, disons, de la naissance. Et bien sûr, on ne peut pas résoudre ce débat parce qu'il y a les deux parties sont importantes. Mais ça a été montré qu'effectivement, les tout petits bébés de quelques jours de vie savent déjà différencier une musique consonante. Par exemple, les auteurs ont fait écouter des inventions de Bach, d'une version dissonante de la même musique où certaines des notes étaient déplacées et donnaient donc lieu à une musique plutôt désagréable. Et déjà, les enfants, les tout petits bébés, pas les enfants, avaient leur cerveau, les enfants dormaient en effet pendant qu'ils écoutaient cette musique, les bébés. Mais leur cerveau réagissait différemment. Il y avait surtout l'hémisphère droit qui semblait être actif pendant l'écoute de la musique, disons, bien faite. Et par contre, quand il y avait des dissonances, l'hémisphère gauche s'en mêlait aussi. Ah, c'est pas bien pourquoi.
Elle est une compagne depuis combien de temps pour vous, la musique? Vous êtes claviériste, je crois.
Oui, j'ai fait des études de piano sans arriver à terme, mais bon, j'ai pas mal étudié le piano et ensuite j'ai fait quelques cours de musique ancienne, de basse continue pour jouer du clavecin, pour accompagner donc de la musique au clavecin.
Et vous avez chanté aussi?
Non, pas du tout, malheureusement. Non, il ne faut pas me faire chanter du tout.
Mais je crois que vous avez découvert assez tôt les cantates de Bach.
Thank you.
La cantate BWV 21 de Jean-Sébastien Bach, Nikolaus Harnoncourt à la tête du Concertus Musicus de Vienne. Paolo Bartolomeo, quels sont les mécanismes en jeu pour déchiffrer une telle cantate?
Vous dites en lisant la partition.
En lisant la partition.
Oui, ça, on y a un peu travaillé à l'ICM, effectivement, pour essayer de comprendre...
L'ICM, c'est l'Institut du cerveau.
C'est l'Institut du cerveau, oui.
À la Pitié-Salpêtrière.
Oui. Pour essayer de comprendre si les mécanismes sont similaires à la lecture d'un texte ou pas. Et donc, on a fait de la neuroimagerie chez des musiciens professionnels, en leur montrant de la musique écrite, donc, de la notation musicale, et chez des personnes qui n'avaient pas fait d'études musicales. On leur a montré donc du texte et de la musique, et on a découvert que chez les musiciens, il y a une région très proche d'une région importante pour la lecture du texte chez tout le monde, qui s'activait. Et même cette région, elle déplaçait un petit peu la région de la lecture du texte. Donc cela démontre une chose importante, que un apprentissage comme l'apprentissage de la lecture musicale peut en fait littéralement changer notre cerveau, la façon dont notre cerveau marche. Et en plus, chez les musiciens, la lecture musicale activait beaucoup de tout un réseau énorme dans tous les cerveaux, hémisphère gauche, hémisphère droit. C'est comme s'il faisait parler entre elles des régions très lointaines du cerveau.
Est-ce que c'est la même région du cerveau qui est mobilisée pour déchiffrer et pour interpréter, c'est-à-dire pour ressentir la musique?
Probablement pas. En effet, on ne sait pas bien parce qu'on n'a pas fait l'expérience sur l'interprétation. Probablement pour l'interprétation, il y a ces réseaux beaucoup plus vastes que dans le cerveau qui sont impliqués. Cette petite région qui est dans la base de l'hémisphère gauche, ça sert probablement pour connecter la vision avec le langage et avec cet autre système qui sont importants donc pour même pour l'interprétation de la musique. Il y avait aussi une activation des régions motrices, comme si les musiciens, en voyant ce texte musical, de quelque façon faisaient de l'imagerie motrice. Imaginez de bouger leurs mains, par exemple, si c'était des pianistes ou des violonistes, pour interpréter cette musique.
cinquième des concertos brandebourgeois en ré majeur BWV 1050 de Jean-Sébastien Bach par l'ensemble Zefiro dirigé par Alfredo Bernardini.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Paolo Bartolomeo, c'est un ensemble que vous connaissez, l'ensemble Zefiro? C'est un ensemble italien?
Oui, c'est un ensemble italien et bon, un ami, en effet, qui s'appelle Lorenzo Coppola, joue la clarinette dans cet ensemble. Bien sûr, pas dans les Brandebourgeois, parce qu'il n'y a pas de clarinette dans les Brandebourgeois, mais il y a beaucoup de disques Mozart, par exemple, qui sont excellents avec Lorenzo qui joue sa clarinette.
Est-ce que la position des interprètes les uns par rapport aux autres dans un ensemble peut influer sur le cerveau et donc sur l'interprétation?
Bon, ce que l'on sait, c'est qu'il est très important que les interprètes se regardent et s'écoutent l'un avec l'autre. Claudio Abbado, même dans les grandes symphonies de Bruckner et de Mahler, il insistait toujours que les interprètes s'écoutent et se regardent, comme dans la musique de chambre. Cette communication entre les interprètes est bien sûr essentielle pour la bonne réussite.
Alors dans votre livre « Pensée droit » aux éditions Flammarion, vous racontez un des détails de la vie tumultueuse de Jean-Sébastien Bach, c'est qu'avant d'être à Leipzig, Bach s'était établi à Köthen, il est gagné bien sa vie, il était apprécié du jeune prince Léopold, mais celui-ci a épousé une femme qui serait à musique, la musique. Ça existe vraiment, Paolo Bartolomeo?
Eh oui, ça existe. Chez à peu près 1,5% de la population...
C'est l'incapacité à apprécier la musique?
Tout à fait, oui. Oui. Et donc une collègue de l'Université de Montréal, Isabelle Peretz, elle a étudié cette population qui n'arrive pas à apprécier la musique. Elle a découvert des toutes petites anomalies dans un circuit. C'est intéressant parce que c'est le circuit dans l'hémisphère droit qui est un miroir au circuit du langage dans l'hémisphère gauche. Vous savez que bon, c'était une découverte française, celle de Paul Broca, au 19e siècle, que nous parlons avec l'hémisphère gauche. Au moins. La plupart d'entre nous utilisent surtout l'hémisphère gauche pour parler. Et il y a un circuit spécifique dans le cerveau qui est important donc, pour comprendre le langage, pour produire le langage. Eh bien, dans l'hémisphère droit, il y a un circuit homologue, disons un miroir. Et ce circuit pourrait être important, par exemple, pour apprécier une mélodie. Et donc, il y a des petites anomalies de connectivité dans ces circuits chez les personnes qui ont la malchance de ne pas pouvoir apprécier la musique.
Et pourtant, la musique déchaîne les passions, on le disait avec Monteverdi, oui, jusqu'à Beethoven, en passant par Haydn, dont les concerts suscitaient des hurlements d'enthousiasme.
Thank you.
L'adagio du quatuor à cordes en si bémol majeur, opus 76, numéro 4, Bogen 3, de Joseph Haydn. C'était le Quartetto Italiano. C'est un enregistrement du milieu des années 50. C'est un quatuor que vous connaissez, évidemment, Paolo Bartolomeo, oui, oui, en tant qu'Italien.
C'est mon quatuor préféré. Je vous aime bien, merci d'avoir passé cette version.
Dites-nous, Paolo Bartolomeo, vous qui êtes neurologue, à propos de Joseph Haydn, qu'est-il arrivé à son crâne?
Eh oui, malgré lui, Haydn s'est trouvé impliqué dans une histoire assez macabre parce que, bon, il a eu la malchance de mourir en 1809 pendant que Napoléon envahissait l'Autriche. Et donc, en temps de guerre, il a été enseveli un peu à la hâte, comme ça. Et ensuite, après quelques années, son patron, le comte Esterhazy, a fait exhumer son corps pour lui donner pour l'ensevelir d'une façon plus digne. Il a découvert un squelette sans tête. Et donc, où était passée la tête de Haydn? Et il se trouve que le fossoyeur avait été soudoyé par des nobles viennois qui étaient passionné de la théorie phrénologique.
La phrénologie.
La phrénologie était une discipline fondée justement à Vienne par Franz Josef Gall. Et Gall pensait que les facultés mentales étaient localisées dans des endroits bien définis du cortex cérébral, de la partie extérieure du cerveau. Et que ces facultés, donc, quand elles s'étaient bien développées, elles développaient aussi comme un muscle la portion de cerveau concernée. Et ce développement donnait aussi une déformation du crâne, ça donnait une bosse. On dit toujours maintenant la bosse des maths, et ça se réfère exactement à ce type de théorie. Et donc, l'idée était d'aller voir dans les crânes de Haydn où est-ce que ça se trouvait son génie musical.
Et alors?
Et alors, voilà, c'est ce qui s'est
passé.
On
l'a trouvé?
Non, bien sûr que non. Ensuite, la tête du pauvre Haydn est passée de main en main. Elle était même exposée au musée de la à Vienne, de la Société des Amis de la Musique à Vienne. Et ensuite, il a été justement restitué au reste du squelette de Haydn.
Alors, un autre musicien qui avait une tête bien faite, c'était le père de Galilée, Vincenzo Galilei, qui était luthiste, compositeur et théoricien de la musique.
Thank you.
Massimo Lonardi aux luttes dans cette Fantasia Terza de Vincenzo Galilei qui date de 1568. Vincenzo Galilei qui était donc le père de Galilée que nous connaissons bien en France. Il semblerait que Vincenzo Galilei ait été convaincu par l'héliocentrisme avant son fils et cela pour des raisons musicales. Il pensait que la position centrale du soleil dans l'architecture musicale offrait un argument pour donc l'héliocentrisme. C'est une des histoires qu'on peut trouver dans les livres de Jean-Philippe Usan, qui était mon invité la semaine dernière. Oui. Vous aussi, Paolo Bartolomeo, ce rapport entre l'astronomie, les mathématiques, la géométrie, la musique, oui, ces sciences sœurs à la Renaissance vous intéresse ?
Énormément, mais bon, je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Mais pour moi, ça a été émouvant d'apprendre que les papas du papa de la science moderne, c'est-à-dire Galilée, qui a créé la méthode scientifique comme nous l'utilisons maintenant, était un musicien. C'est le rapport dont vous parliez entre astronomie et musique que l'on voit effectivement déjà dans Copernic, qui était aussi intéressé à la musique, et que l'on voit à partir de Pythagore, de la musique des sphères de Pythagore. Mais pour moi, c'était une découverte, voilà, comme ça, une découverte amusante et émouvante.
Paolo Bartolomeo, vous êtes donc neurologue et vous jouez du clavecin. Et je crois que vous menez une expérience sur une des pièces de Bach. On l'écoute et vous nous en dites plus.
Thank you.
Un extrait de la sonate pour flûte et clavecin de Jean-Sébastien Bach en mi mineur BWV 1034 avec Marc et Pierre en taille. Quelle est donc cette expérience scientifique que vous élaborez avec un collègue à vous, c'est ça, un homologue italien ?
Oui, avec Luciano Fadiga qui est un professeur de physiologie à l'Université de Ferrara. Et Luciano utilise une caméra thermique, un appareil très sensible qui mesure les variations de température des visages du public pendant que l'on joue de la musique. Et alors nous avons mis ensemble cette expérience.
Avec vous au clavecin donc.
Oui, moi je jouais le clavecin, moins bien que Pierre Antaille, c'est sûr.
Et, qui joue de la flûte ?
Un ami avec qui on joue depuis qu'on était étudiant en médecine. Lui, il est devenu maintenant professeur d'anatomie pathologique dans l'université de Rome, l'université catholique. Il s'appelle Riccardo Ricci. Mais il a aussi un diplôme de flûte traversière baroque. Il est un excellent musicien. Et donc, on s'est beaucoup amusé, bien sûr, à jouer. On a fait ses concerts trois fois à Rome, à Milan et finalement à Paris, à l'Institut du Cerveau. Et bon, je suis curieux de voir quels sont les résultats. L'idée est de voir si on peut mettre en relation des passages spécifiques de la musique de Bach, par exemple les cadences ou des modulations, avec des modifications de la température des visages du public, ce qui pourrait indiquer soit une réaction émotionnelle, soit peut-être une réaction aussi de communication entre les membres du public, du contenu de la musique.
Donc l'expérimentation n'est pas sur vous en tant qu'interprète ?
Non, c'est sur le public.
Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher aussi chez les interprètes au moment où ils jouent ?
Alors, chez les interprètes, il y a un très beau travail, toujours de Luciano Fadiga, qui a étudié les mouvements. Il a utilisé des détecteurs de mouvements très précis aussi, pour voir comment un quatuor joue, comment par exemple les membres du quatuor suivent les mouvements du premier violon. Et donc il a publié un travail très intéressant où encore une fois il met en relation ces mouvements, cette détection très précise de la kinétique du mouvement des membres du quatuor avec ce qui se passe dans la musique.
Et alors, quelles sont ses conclusions ?
Et les conclusions sont encore une fois, il y a bien sûr une communication importante entre le premier violon et les membres du quatuor qui fait en sorte que la musique puisse avoir sa caractéristique de dire quelque chose.
Hein. C'est une communication par les yeux ou c'est une communication non-verbale, par les gestes ?
Sûrement non. Il faut se regarder encore une fois pour que les gestes puissent être, disons, intégrés. Luciano Fadiga est l'un des découvreurs des célèbres neurones miroirs. C'est des cellules nerveuses qu'il a découvert chez les singes, dans le groupe de Giacomo Rizzolatti à Parma, qui sont dans des régions motrices ou prémotrices du cerveau, qui normalement sert à bouger ses propres membres. Mais les singes l'activent aussi quand elles voient quelqu'un d'autre qui fait un mouvement. Et donc, on discute beaucoup sur les implications de ces neurones perceptifs, en effet, pour le mouvement, dans des régions motrices. Et on pense que, les gens pensent que ça puisse être une des bases de la résonance, de l'empathie, du fait que nous pouvons nous mettre dans la tête de quelqu'un devant nous quand nous les voyons bouger.
Thank you.
Extrait du quintet pour pianoforte et vent mi bémol majeur, Köchel 452 de Wolfgang Amadeus Mozart.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
C'est une version de l'ensemble Dialoghi dirigé de la clarinette par Lorenzo Coppola. Paolo Bartolomeo, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette interprétation de Mozart ?
Bon, d'abord, merci d'avoir passé cette version qui, d'après moi, est la meilleure de la discographie. Je pense pas que je dis ça parce que il y a Lorenzo Coppola qui est un ami, mais parce que vraiment Lorenzo a approfondi beaucoup la façon où on faisait la musique à l'époque. Et lui, il dit toujours qu'à l'époque, les gens allaient tous les soirs à l'opéra. Et quand il faisait de la musique chez eux, comme dans le cas du quintet ici, il voulait entendre et faire les mêmes choses qu'à l'opéra. Et donc, il y a le personnage de l'opéra. On peut entendre dans ces quintettes Figaro, on peut entendre Susanna, la comtesse, Don Giovanni. Et c'est ça, je pense, c'est cette idée-là qui donne cette extrême vitalité à cette version en particulier.
Vous qui êtes neurologue, Paolo Bartolomeo. Est-ce que vous vous êtes intéressé aux différences entre gaucher et droitier chez les instrumentistes, par exemple chez les violonistes?
Alors, pas vraiment différence entre gaucher et droitier, mais il y a une étude célèbre qui est sortie il y a désormais longtemps d'une équipe allemande qui ont fait de la neuroimagerie chez des violonistes. Et ils ont découvert que les doigts de la main gauche des violonistes, qui doivent, les doigts de l'index à l'auriculaire en particulier, doivent faire des mouvements extrêmement fins. Eh bien, ils ont découvert que les cartes cérébrales relatives à la motricité de ces doigts et aux sensations qu'on peut avoir à travers ces doigts étaient élargies chez les violonistes par rapport au sujet contrôle. Donc c'est un autre signe important que l'entraînement, l'apprentissage peut changer même la topographie de notre cerveau.
Donc là, c'est le cerveau droit qui est en jeu pour la main gauche, c'est bien ça?
Exactement, oui. Oui.
Et qu'est-ce que ça change dans le circuit du cerveau droit d'utiliser aussi finement sa main gauche?
Ça recrute des régions plus élargies par rapport aux sujets normaux, aux sujets, pardon, contrôle.
C'est un arrangement pour violon de la bourrée tirée de la suite numéro 3 en ut majeur BWV 1009 de Jean-Sébastien Bach avec Rachel Podger au violon. Le neurologue Paolo Bartolomeo est l'invité de Musique et moi ce matin, directeur de recherche à l'INSERM. Il travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, à l'Institut du cerveau. Paolo Bartolomeo, vous avez suivi bien évidemment l'opération sur une violoniste atteinte d'une tumeur, c'était au début de l'année, à l'hôpital King's College à Londres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que recherchaient ces chirurgiens?
Oui, c'était effectivement passionnant. Les chirurgiens, quand ils doivent opérer une tumeur cérébrale, ils se trouvent devant un gros problème. Ils doivent enlever le plus de tissus possible pour éviter une récidive ou pour éloigner le plus possible dans le temps une récidive. Mais, bien sûr, ils ne doivent pas donner des déficits post-opératoires en enlevant trop. Hein? Comment on peut résoudre ces problèmes? Eh bien, un moyen est de réveiller les patients pendant l'intervention. Hein? Le cerveau n'a pas de récepteur à la douleur, donc ça suffit de faire un peu d'anesthésie locale tout autour, et de stimuler les endroits du cerveau que le chirurgien voudrait enlever pendant que les patients font quelque chose. Donc, par exemple, typiquement, il parle, on lui demande de dire quelque chose, de lire un texte. Nous, on l'a fait avec des tests visuospatiaux, la bisection des lignes, c'est-à-dire trouver les milieux d'une ligne horizontale pour voir si ce que le chirurgien faisait pouvait influencer donc les habiletés visuospatiales. Et ses collègues, donc, à Londres, l'ont fait en faisant jouer du violon. C'était ce que la...
Une musicienne s'appelle Dagmar Turner et qui est membre de l'orchestre symphonique de l'île de Wight, au sud de l'Angleterre. Mm-hmm. Donc, elle a réussi à jouer du violon pendant l'opération. Oui. C'est extraordinaire.
Oui, et surtout, le chirurgien, donc, en stimulant les régions qu'il voulait enlever, en voyant ce qui perturbait ou pas le jeu de la patiente, ont pu respecter les régions importante pour qu'elle puisse continuer à jouer du violon après l'intervention. C'est ça l'intérêt clinique, disons, de cette procédure de la chirurgie éveillée.
Oui, parce que ce sont des zones extrêmement fragiles, j'imagine.
Oui. Il faut surtout faire attention au circuit, plus que les régions du cortex. Ce qui est important, c'est les câbles. C'est ce que donc mon ami, le professeur Hugues Dufaux, neurochirurgien maintenant à Montpellier, mais qui était à la Salpêtrière, m'a toujours dit, si on arrive à respecter les connexions entre les régions, alors on a des chances que les patients puissent avoir une bonne récupération.
Vous m'avez dit, Paolo Bartolomeo, que vous souffrez vous-même de earworms. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est en partie votre faute, parce que j'écoute beaucoup France Musique, donc ce que vous passez me reste dans la tête. Ça continue de jouer dans ma tête pendant longtemps après que j'ai arrêté d'écouter.
C'est une mémoire auditive particulière?
Oui, en effet, il y a des gens qui étudient ça sérieusement. Moi, honnêtement, je ne sais pas bien comment ça se passe, mais c'est une forme d'imagerie mentale pour les sons. Hein. Nous, on étudie pas mal l'imagerie mentale visuelle. Hein. C'est-à-dire, si je vous dis, par exemple, maintenant, imaginez la Joconde. Comme si vous l'aviez devant vos yeux. Vous y arrivez. Normalement, la plupart des gens, ils y arrivent assez bien. Eh bien, on a aussi une imagerie mentale pour les sons. Hein. C'est ce que les compositeurs ont toujours utilisé. C'est ce que Beethoven utilisait. Même quand il composait étant sourd, il pouvait parfaitement, malgré sa surdité, s'imaginer les sons d'une partition complexe comme la 9e symphonie. Donc, c'est des capacités qui, bien sûr, varient d'un individu à l'autre, mais sont très important pour les musiciens. Thank you.
Bernarda Funk et Roger Vignol dans ce lead de Brahms pour mezzo-soprano et piano, Wie Melodien zieht es mir, opus 105, numéro 1. Ce type de mélodie vous reste dans la tête, par exemple, Paolo Bartolomeo?
Ouais.
Vous parlez l'allemand?
Non, non, je parle, malheureusement, je ne parle pas l'allemand, mais ça va rester là. Je sais que sorti du studio, ça va continuer à tourner dans ma tête.
Particulièrement la voix, quel est pour vous un instrument qui vous... qui a une vibration particulière pour vous?
Mais bien sûr, bon, la voix de Bernarda Fink, elle est magnifique. Hein, que son timbre très chaud, bien sûr, elle reste dans la tête.
Vous faites des expériences sur vous-même, en tant que neurologue, de ce qui produit des émotions particulières? Ou vous séparez votre pratique de votre quotidien?
Non, je dois dire que c'est assez séparé, effectivement. Sauf dans les cas de l'expérience.
Quand vous allez au concert, c'est pas un enfer de...
Non, non, pas trop. Non, non. Non, j'essaie de suivre la musique, c'est tout. Par contre, une exception récente, c'est cette expérience dont on parlait avant avec Luciano Fadiga. Là, effectivement, il y a...
Sur la musique
pour la première fois après des décennies. Oui,
vous avez réconcilié votre pratique et... de neurologue et votre pratique de musicien.
Tout à fait, oui.
Alors, il y a quelqu'un dont j'aimerais qu'on parle pour finir, c'est le pianiste Leon Fleischer, dont on va entendre All the Things You Are, un arrangement de la mélodie de Jérôme Kern, un arrangement pour la main gauche, qui date de 2013.
Thank you.
All the Things You Are de Jérôme Kern. C'est un arrangement pour la main gauche, ici par le pianiste Léon Fleischer. C'est un enregistrement de 2013. Qu'est-ce qui est arrivé à Léon Fleischer, Paolo Bartolomeo?
Oui, c'était assez dramatique parce qu'il a souffert d'une pathologie dont beaucoup de musiciens souffrent un moment ou l'autre de leur carrière. C'était une dystonie focale, c'est-à-dire sa main droite ne bougeait plus comme elle devait. Et il ne pouvait plus du tout utiliser sa main droite pour jouer. Donc, pendant des décennies, donc, il a été contraint de jouer que de la main gauche. Donc, il a été très
tout le répertoire voilà. De Paul Wittgenstein.
Paul Wittgenstein, exactement, oui. Oui.
Le concerto pour la main gauche de Ravel, etc. n'a plus aucun mystère pour lui. C'est absolument. Un rapport avec l'hémisphère gauche de son cerveau.
Oui, mais c'est pas tellement le cerveau. Là, c'est des circuits. C'est le cerveau, en fait, mais c'est des circuits entre le cerveau et le tronc cérébral qui contrôlent la fluidité du mouvement qui sont atteints dans cette pathologie. Ouais.
Donc, ça n'a rien à voir avec un accident vasculaire cérébral
Non. Non, absolument pas.
Comme par exemple a souffert le cinéaste Fellini. Vous en parlez dans votre livre.
Lui, à la fin de sa vie, Fellini a souffert d'un AVC dans son hémisphère droit. Et il a montré, pendant qu'il était en rééducation, des signes de ce que l'on appelle une négligence spatiale, c'est-à-dire il ne prêtait plus attention à ce qui s'est passé dans la partie gauche de l'espace. C'est un désordre très fréquent après lésion droite, pas très connu, mais c'est aussi important parce que ça influence la rééducation des patients. Et lui, ce qui était marrant dans son sens, c'est que pendant sa rééducation, lui, il dessinait beaucoup. Avant d'être un cinéaste, Fellini était un très bon dessinateur. Et il dessinait toutes ces femmes sans la partie gauche dans les dessins. Seulement les détails à droite.
Et, il en avait conscience?
Alors, ça, c'est une question très intéressante parce que, disons, par définition, on dit que les patients négligents ne sont pas conscients d'être négligents. Sinon, ils négligeraient pas, ils regarderaient à gauche. Eh bien, Fellini, il avait une forme de conscience. Il avait même d'être négligent parce que il était quelqu'un de brillant et tout le monde autour lui disait, fais attention à ce qui se passe à gauche. Il avait même demandé qu'on écrive sur sa carte de visite Federico Fellini, émi-négligent.
Émi-négligent.
Oui, parce qu'on l'appelle aussi émi-négligence. Oui, parce que c'est la moitié gauche de l'espace qui ne reçoit pas d'attention. Cela dit, même avec cette forme de conscience, disons, intellectuelle, il n'arrivait pas à compenser sa négligence. Donc, il y a peut-être plusieurs formes de conscience d'une maladie. On peut être conscient de quelque chose d'une façon intellectuelle et abstraite, ou on peut effectivement agir sur les problèmes. Et ça, lui, il ne pouvait pas. Ensuite, il a récupéré, heureusement, de sa négligence. Mais puis, malheureusement, comme vous le savez peut-être, il a eu un autre AVC, donc il est décédé.
Donc on peut voir ces croquis du cinéaste
absolument,
Fellini
oui,
dans votre livre « Pensée droit ». Pensée droit, donc c'est votre livre, Paolo Bartolomeo. C'est paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. Les références discographiques de cet épisode de Musique et moi, les références de votre livre, Paolo Bartolomeo, sont à retrouver sur francemusique.fr. Merci à toute l'équipe, Valérie Lavalard à la technique, Marie Gros à la réalisation, Marie Ferdinand attachée de production. La semaine prochaine, on s'intéresse à la voix avec Olivier Broche, ancien comédien des Deschiens, passé à la mise en scène pour le spectacle Ma vie de ténor avec le chanteur Jean-François Novelli. À la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.